Belle soirée à vous à l'écoute d'Europe 1, il est 22h. Tout de suite le journal, Sophie Tussaud.
Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal de la nuit. À la une de l'actualité ce soir, Sébastien Lecornu chahuté par des gilets jaunes dans les Hautes-Alpes. Le ministre chargé des collectivités territoriales s'est rendu sur le terrain pour préparer le grand débat national. Premier jour du procès du djihadiste Medine Mouche à Bruxelles, l'auteur de la tuerie du musée juif, l'association française des victimes du terrorisme et partie civile. Les parents d'élèves violents seront-ils privés d'allocations familiales? C'est une des pistes envisagées par le ministre de l'Éducation. Un plan d'aide à 9 milliards d'euros. Il va permettre aux plus modestes de rénover leur logement. Le divorce du patron d'Amazon fait trembler la planète finance. Nous serons avec notre correspondant à New York dans ce journal. Et puis comme tous les soirs, la bourse avec Claire Lemaître de boursier.com, l'invité éco d'Emmanuel Duteil qui reçoit à 22h20 Patrick Pouyanné, le PDG de Total, sans oublier les unes de la presse de demain.
Europe 1. Le gouvernement prépare le grand débat national de la semaine prochaine. Les ministres étaient sur le terrain aujourd'hui face aux gilets jaunes. Un déplacement mouvementé notamment pour Sébastien Lecornu, Jean-Rémy Baudot.
Dictature. Oui, vous l'entendez ici dans les Hautes-Alpes, les slogans dictature. Sont globalement les mêmes qu'ailleurs. Macron démission, dictature. À Argentière, ce matin, une quinzaine de gilets jaunes attendaient le ministre en charge des territoires, principalement des retraités. Un petit rassemblement, Sébastien Lecornu est allé à leur rencontre, essayant de répondre sur les institutions, le train de vie de l'État ou la fiscalité. Quand une femme s'est approchée en fustigeant les forces de l'ordre, charriant au passage de nombreuses fausses informations qui circulent sur Internet, d'où cet échange particulièrement tendu avec le ministre.
Est-ce que ça ne servira pas aux CRS matraqueurs, gazeurs, frappeurs, tueurs?
Je suis désolé madame, je ne laisserai pas dire que les CRS sont des tueurs.
Venez, on vous montrera des vidéos.
La même police de la République et les mêmes gendarmes de la République que vous avez applaudi pour M. Beltram à Trèbes ou après les attentats, on ne peut pas aujourd'hui dire que ce sont des tueurs. Je suis désolé madame, j'ai porté l'uniforme, je suis réserviste, vous ne pouvez pas parler des policiers et des gendarmes quand vous en parlez. Moi je veux bien débattre, je veux bien discuter, madame, mais si c'est pour dire des choses qui sont fausses et insultantes, insulter les policiers ou les gendarmes de la République, je ne serais pas d'accord.
Voilà, la discussion s'est arrêtée là. Dialogue impossible, de quoi évidemment interroger sur la sérénité des futurs débats qui s'annoncent avec les gilets jaunes les plus en colère.
Jean-Rémy Baudot dans les Hautes-Alpes pour Europe 1. Et en marge de la mobilisation des gilets jaunes, la cagnotte lancée en faveur des policiers blessés explose. Près de 1,2 million d'euros ont été récoltés en un peu plus de 48 heures. Le montant total sera reversé à l'Amicale de la Police Nationale. Marc Silvera est le délégué général de cette association proche du syndicat Alliance.
Eh bien, écoutez, le budget habituel de fonctionnement de notre association est entre 50 000 et 100 000 euros par an. Nous avons été créés en 2012 par une réelle volonté de policiers bénévoles.
50 à 100 000 euros, là vous allez toucher plus d'un million d'euros. Ça a un côté grisant, effrayant.
Un petit peu. C'est vrai qu'on ne s'attendait pas du tout. Plus du million d'euros, c'est une somme vraiment très 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 conséquente. Étant une jeune association, on va prendre déjà tous les moyens nécessaires pour une transparence la plus totale, en coordination avec le ministre de l'Intérieur, pour être au plus juste de tous les personnels que représentent les policiers, les pompiers, les gendarmes, la sécurité civile, les scientifiques et les administratifs de notre ministère.
Le délégué général de l'Amicale de la Police Nationale, interrogé pour Europe 1 par Alain Accot. Et par ailleurs, il y a ce chiffre annoncé aujourd'hui par Christophe Castaner. 60% des radars présents sur les routes de France ont été détruits depuis le début du mouvement des Gilets jaunes. Nouveau rebondissement dans l'affaire Benalla. À la suite de la polémique sur les passeports diplomatiques, Alexandre Benalla, l'ancien conseiller d'Emmanuel Macron, sera de nouveau auditionné le 21 janvier par la Commission des lois du Sénat. Christophe Castaner et Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, viendront également s'expliquer. En Belgique, premier jour du procès de Medine Mouche, le tueur présumé du musée juif de Bruxelles en mai 2014, est jugé devant la cour d'assises de Bruxelles pour 4 assassinats terroristes. Salomé Le Grand, vous suivez ce procès pour Europe 1 et ce qui a marqué aujourd'hui, c'est la décontraction de l'accusé.
Ah oui, très à l'aise, décontracté malgré les 3 membres des forces spéciales encagoulées qui l'encadrent en permanence. Le djihadiste de 33 ans a écouté cet après-midi sans émotion le procureur lire l'acte d'accusation détaillé, les 82 secondes qui ont suffi au tueur du musée juif pour abattre 4 personnes de sang-froid. Dans le box, Medine Mouche bâille, se tripote tour à tour le menton ou les sourcils, papote avec ses avocats, voire même plaisante avec avec eux. Quand est évoquée son arrestation par les douaniers français à Marseille, on est 6 jours après l'attentat, il est alors à bord d'un bus en provenance de Bruxelles. Page après page, le procureur égrène les témoins qui le reconnaissent formellement, son ADN retrouvé sur les armes, les enregistrements sonores de revendications récupérés sur son ordinateur. Il rappelle l'obstination de Medine Mouche à garder le silence face aux enquêteurs, puis face aux juges d'instruction. L'accusé, lui, ne scie pas. À 1 mètre devant lui, dans un faisceau de lumière, trônent les scellés, dont la Kalachnikov qui a servi à la tuerie.
Salomé Legrand du service police-justice d'Europe 1. Et parmi les parties civiles de ce procès, l'Association française des victimes du terrorisme, pour l'avocat de l'association, Maître Cajuboulo-Ferro, leur présence est importante en raison des liens qui existent entre Medine Mouche et les auteurs des attentats de Paris et Bruxelles en 2015 et 2016.
On sait maintenant que ces gens se connaissent avant, s'entraînent, s'aident, ont une logistique ensemble et finalement c'est une équipe avec un projet, avec des commanditaires, avec des gens qui ont en plus un projet de vie, hein, le djihad, etc. Donc nous, victimes, on a été victimes tout le temps. Ça commence ici à Bruxelles, au musée juif de Belgique, et ça va se poursuivre après. On a besoin de comprendre qui est qui, parce qu'on se dit que de toute façon, c'est des pièces de puzzle, c'est une logique d'être là.
Maître Cajuboulo-Ferro, avocat de l'Association française des victimes du terrorisme. Il n'y a plus d'espoir de retrouver vivants les 2 membres d'équipage du Mirage 2000 qui s'est écrasé hier dans l'est de la France. La ministre des Armées, Florence Parly, annonce leur mort ce soir. Les circonstances de l'accident ne sont toujours pas connues. 22h06 sur Europe 1. Quelles sanctions pour les parents d'élèves violents? Restez avec nous, on entendra dans un instant le ministre de l'Éducation.
Europe 1, le journal de la nuit, Sophie Tussaud.
Jean-Michel Blanquer confirme sa volonté de sanctionner les parents d'élèves violents dans le cadre du plan sur les violences scolaires. L'une des pistes envisagées est la suspension des allocations familiales, mais pour l'instant, rien n'est décidé. Jean-Michel Blanquer.
Ce qui a été dit dans la presse pour l'instant est totalement prématuré. Ce qui est certain, c'est qu'en matière de responsabilisation des familles, nous souhaitons avoir une vision à la fois pragmatique et personnalisée, c'est-à-dire être capable de voir quand est-ce que une famille est défaillante et que cela cause de la violence des élèves. Parfois, ça nécessite d'aider cette famille, mais parfois, ça nécessite aussi d'envoyer un avertissement. Ce qui est important, c'est surtout d'être dissuasif. C'est plus le risque d'une amende ou de quelque chose, d'une conséquence financière.
Ce qui est important, c'est la conséquence financière.
Ouais, c'est le fait que les familles comprennent qu'il y a à se responsabiliser.
Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation sur Europe 1, avec Mathieu Béliard, et des mesures seront proposées à la fin du mois. Je vous en parlais en titre, un prochain coup de pouce pour les ménages les plus modestes. 9 milliards d'euros pour la rénovation de leur logement. Concrètement, Maud Descamps, en quoi cela va consister ?
Eh bien, si vous habitez par exemple à plus de 30 km de votre lieu de travail et que vous souhaitez vous rapprocher, vous pourrez percevoir une prime déménagement de 1 000 euros. Pour les personnes âgées, une prime de 5 000 euros sera versée pour adapter leur logement, remplacer par exemple la baignoire par une douche qui est plus accessible. Environ 200 000 salles de bain devraient être ainsi rénovées. Et puis, autre mesure pour les ménages les plus modestes, une aide de 20 000 euros pour la rénovation énergétique, pour changer ses fenêtres ou son chauffage, par exemple. Alors, attention, hein, quand on parle d'un plan de 9 milliards d'euros, toute cette enveloppe ne sera pas allouée aux ménages. Il y a aussi une partie qui sera distribuée aux bailleurs sociaux pour qu'ils améliorent les logements. Tout cela est en train d'être affiné, notamment pour déterminer qui sera éligible aux différentes aides et primes. Il y aura des conditions de ressources. En tout cas, le gouvernement veut aller vite puisque ces mesures devraient être appliquées dès le mois prochain.
Merci Maud Descamps. Aucune fraude constatée sur la rémunération de Carlos Ghosn ces 2 dernières années chez Renault, annonce du groupe automobile après une réunion extraordinaire de son conseil d'administration ce soir. C'est une des autres conséquences du shutdown. Donald Trump annule sa participation au Forum économique et mondial de Davos dans 2 semaines. Le président américain rejette la faute sur les démocrates qui refusent toujours la construction d'un mur anti-migrant à la frontière mexicaine. C'est peut-être le divorce du siècle. Jeff Bezos, le patron d'Amazon, se sépare de sa femme après 25 ans de mariage. La fortune du milliardaire américain est immense. Et cette affaire personnelle inquiète les milieux financiers, Xavier Yvon.
Oui, il va falloir se partager 137 milliards, oui, milliards de dollars. Ça fait 120 milliards d'euros, estimation de la fortune de Jeff Bezos. Sa femme Mackenzie Bezos a le droit d'en demander la moitié parce que cette fortune, cette Amazon, créée un an après leur mariage, il y a 25 ans donc, et comme ils n'ont pas fait de contrat de mariage, c'est du 50-50, dit la loi dans l'état de Washington où ils vivent, dans leur maison de 3000 mètres carrés. Mais Jeff Bezos n'a pas tout cet argent en banque pour payer sa part à sa femme. Il ne peut pas simplement faire un chèque de 60 milliards de dollars. Non, le fondateur d'Amazon va devoir vendre des parts de son entreprise. Et ça, c'est un problème parce que ça pourrait lui en faire perdre le contrôle. Il en possède 16% actuellement. D'ailleurs, l'action Amazon a un peu baissé à l'annonce du divorce. Mais le ton du communiqué du couple et les infos distillées par leur entourage se veulent rassurants. Ils se quittent en très bons termes et Mackenzie Bezos n'a pas l'intention de faire perdre le contrôle d'Amazon à son mari. Elle veut que l'entreprise continue à grossir et donc avec la richesse familiale, aux avocats désormais de trouver un arrangement pour ce qui sera de toute façon sans doute le divorce le plus cher de l'histoire.
Xavier Yvon, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Le football, et on connaît les affiches des demi-finales de la Coupe de la Ligue. Guingamp, qui a sorti hier le PSG, recevra Monaco et Strasbourg affrontera Bordeaux. Et puis le compte à rebours est lancé. C'est dans 2024 jours exactement que débuteront les Jeux Olympiques de 2024 à Paris. Le temps de demain, Elena Morna, on ne part pas franchement sur un week-end de rêve.
Eh bien, ça dépend des rêves que vous faites, Sophie. Si vous rêviez d'une balade sous un ciel clair, c'est vrai que c'est pas bon. Mais pour un week-end romantique au coin du feu, eh bien, c'est plutôt pas mal, puisque vous serez à l'abri de la pluie qui s'étendra du nord-ouest aux Ardennes demain matin, des pluies faibles et quelques flocons en plaine sur le nord-est. Alors, sur un axe allant du Poitou-Charente-Aquitaine jusqu'en Alsace et Rhône-Alpes, opération brouillard demain matin, brouillard givrant. Attention entre la Garonne, les vallées du Massif central et le Val-de-Saône. Après leur dispersion, quelques éclaircies, quoique les nuages du nord gagneront le Poitou-Charentes puis la Gironde jusqu'en Alsace et Franche-Comté l'après-midi. Sur le sud-est, le ciel restera bien dégagé, mais toujours au prix de fortes rafales de vent, Mistral et Tramontane jusqu'à 90 km/h. Côté température, on aura froid, dégelé partout demain matin sur le nord-ouest, puis l'après-midi, ça ne dégèlera pas du côté de la Haute-Loire, avec moins 2 à 0 degrés, 1 à 3 degrés dans le nord-est, 4 à Toulouse et Lyon, 6 à Bordeaux et Avignon, 7 à Évreux et Paris, 8 à Lille, Nantes et Perpignan, 10 à Brest et Marseille, 12 à Toulon et Ajaccio. Un peu moins froid samedi, mais nuageux et quelques averses de pluie ou de neige sur l'est, sauf près de la Méditerranée, toujours dans le vent. Même scénario dimanche avec des pluies plus marquées du sud-ouest aux régions de l'est.
Merci Elena Morna. Restez avec nous. Restez avec nous. À suivre dans votre journal de la nuit, La Bourse, avec Claire Lemaître et l'invité éco d'Emmanuel Duteil, qui reçoit ce soir le PDG de Total, Patrick Pouyanné. On se retrouve dans un très court instant.
22h, 22h30, le journal de la nuit avec Sophie Tussaud sur Europe 1.
Et on fait un point sur la bourse à 22h15. Bonsoir, Claire Lemaître de boursier.com.
Bonsoir Sophie.
Alors les marchés ont beaucoup hésité ce soir à Wall Street.
Oui, ils finissent finalement en hausse, cinquième séance de hausse d'affilée. Le Dow Jones gagne 0,51%, 24 002 points, plus 0,42% pour le Nasdaq à 6 986 points. Les plus fortes progressions sont pour Boeing, plus 2,5%, et Caterpillar, plus 2%. Deux valeurs toujours dopées par les avancées dans les discussions commerciales entre la Chine et les États-Unis, c'était hier soir. En revanche, le secteur de la distribution a souffert. La chaîne de magasins Macy's a publié des ventes décevantes pour la période des fêtes. Le titre plonge de 18%. L'activité a ralenti aussi pour les magasins Kohl's. On a un titre qui perd 4,8%. Et puis c'est compliqué pour le transport aérien avec des prévisions un peu justes pour la compagnie American Airlines qui lâche 4,1%. Ça entraîne United Continental qui perd 2,8%. Le pétrole poursuit sa remontée. Le WTI gagne 0,4%. On est à 52,59 $ le baril. Le baril qui a repris 15% depuis le 1er janvier. Et puis l'euro recule de 0,3% autour de 1,15 $.
Alors, cinquième séance de hausse d'affilée à Wall Street. En revanche, à Paris, eh bien, c'est une pause après deux séances dans le vert.
Oui, le CAC 40 temporise. Petit repli de 0,16%. On est à 4 806 points. Une séance à nouveau compliquée pour les équipementiers automobiles. Faurecia perd 5,7%, Valeo moins 2,4%. C'est du rouge aussi pour le luxe. Kering recule de 3,5%. Les analystes d'UBS sont moins optimistes pour le titre. Dans le même secteur, on a LVMH qui perd 0,9%. Et puis Air France KLM chute de 3,7%. Air France a décidé de supprimer Joon, sa filiale à Bakou, moins d'un an après sa création. Une marque qui n'a pas vraiment réussi à convaincre à trouver sa place.
Et petit repli aussi ce soir pour le titre Fnac Darty.
Moins 0,2% pour Fnac Darty. Le mouvement des gilets jaunes a pesé sur son activité fin 2018 avec une perte de chiffre d'affaires estimée à environ 45 millions d'euros pour ses magasins. En revanche, ça grimpe pour Maison du Monde, plus 10,6% pour le titre. L'enseigne d'ameublement va, elle, remplir ses objectifs de vente annuelle malgré les manifestations, selon l'agence Bloomberg. Et puis ce soir, on a aussi Sodexo avec un gain de 2,4% après avoir confirmé ses objectifs annuels. Les marchés européens ont clôturé en petite hausse ce soir. Francfort gagne 0,3%, Londres plus 0,4%, un gain de 0,5% pour Madrid, Milan plus 0,6%, Amsterdam plus 0,3%. Et à Paris, c'est du rouge pour le CAC 40, moins 0,2%, 4806 points.
Merci Claire Lemaitre de boursier.com. On vous retrouve demain soir sur Europe 1 pour un nouveau Point Bourse. Il est 22h17, c'est l'heure du rendez-vous éco avec Emmanuel Duteil. Emmanuel, votre invité ce soir est Patrick Pouyanné, le président du groupe Total.
On poursuit notre semaine spéciale depuis le CES de Las Vegas. C'est le plus grand salon de l'électronique grand public au monde. Invité exceptionnel ce soir sur Europe 1, le patron de Total, Patrick Pouyanné. Bonsoir Patrick Pouyanné.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors chaque année, vous emmenez vos plus proches collaborateurs faire une sorte de semaine d'immersion dans un endroit très innovant. Et donc cette année, c'est le CES de Las Vegas. Pourquoi avoir fait ce choix ?
Parce que c'est un des événements mondiaux en termes d'innovation et l'innovation digitale. Voilà, ici, il se passe beaucoup de choses. Et donc en deux jours et pas mal de kilomètres, on arrive à avoir une bonne idée du monde de l'innovation, de ce qui se passe dans l'innovation mondiale.
C'est-à-dire que même des grands patrons comme vous, vos collaborateurs, vous avez besoin de ça pour, comment on pourrait dire, rester connecté ?
Non, mais je crois que c'est très important qu'on est à la tête d'un grand groupe comme Total, justement, on peut faire beaucoup de choses, mais montrer, passer du temps à écouter les autres, à voir ce qui se passe dans le monde de l'innovation, c'est un message aussi qu'on envoie bien évidemment à travers toute l'entreprise, que comme quoi, pour un leader industriel comme Total, notre futur est lié à notre capacité d'innover technologiquement. Et donc, il y a non seulement, bien évidemment, les patrons et quelques-uns de ses collègues qui viennent ici, mais il y a d'autres équipes de Total. Donc, c'est une volonté de mettre l'innovation parmi les principaux, stratégies du groupe.
Et vous êtes là aussi parce qu'on ne l'imagine pas obligatoirement quand on est un groupe comme Total, mais il y a un stand Total où vous soutenez des startups qui peuvent aider également dans votre domaine. Je suis allé regarder, par exemple, il y a une plateforme digitale pour les drones autonomes, drones qui peuvent comme ça permettre d'aller sur vos plateformes pétrolières, qui peuvent aller sur les plateformes en mer. C'est aussi ça, le groupe Total ?
Oui, en fait on n'a pas un stand Total. On a décidé au contraire d'avoir un stand avec la région Île-de-France pour non pas mettre en valeur Total, mais soutenir justement des startups françaises. D'ailleurs, c'est très impressionnant. Ici à Las Vegas, il faut savoir qu'il y a plus de 400 startups françaises. Alors nous, on en accompagne 4. C'est parti aussi, je crois, du rôle d'un grand groupe comme Total, de permettre de mettre le pied à l'étrier à des petites entreprises pour montrer la force des capacités d'innovation. Effectivement, il y en a une. J'ai eu mon diplôme de pilote de drone, là, puisque j'ai piloté en téléportation, en quelque sorte. J'ai piloté depuis Las Vegas un drone qui était basé sur une base à Brétigny-sur-Orge, en région parisienne. Et je l'ai fait se promener. On a même vu la tour Eiffel briller à Las Vegas à partir de ce drone. Donc il y a des technologies étonnantes et qui nous permettent, nous, concrètement, qu'est-ce qu'on en fait ? Grâce à ça, on équipe dans la raffinerie de Feuzin, à Lyon, nos équipes de pompiers vont pouvoir disposer de ces drones en cas d'incident pour pouvoir aller superviser les opérations. Donc il y a des applications très concrètes, industrielles, pour la sécurité de nos sites grâce à des technologies comme les drones.
Et il y a aussi un intérêt pour nous, puisque je suis allé regarder votre compte Twitter tout à l'heure et par exemple, vous tweetiez une photo d'une de vos divisions qui fait de la gestion intelligente de la consommation d'énergie. Le but, c'est de payer un petit peu moins cher grâce à ça. La technologie chez Total, ça doit aussi aider à cela ?
Ah ben je crois qu'en ce moment, c'est d'actualité. J'ai l'impression depuis quelques temps en France, le coût de l'énergie. Donc effectivement, Total maintenant est engagé dans Direct Energy. Et Direct Energy, c'est la consommation d'électricité. On est dans les maisons des gens. Et on a développé avec une start-up rennaise d'ailleurs, de Rennes, un petit outil qui j'espère va devenir populaire en France qui s'appelle Atom, qu'on pourra brancher très simplement. En 5 minutes, on le branche et on a une application sur son smartphone, branchée sur son compteur Linky. Et grâce à ça, les Français pourront savoir combien ils consomment en euros par... en euros par jour, en euros par heure d'électricité. Quand vous êtes dans votre voiture, vous savez en fonction de votre vitesse combien, et vous voyez la consommation s'afficher sur votre écran de voiture. L'électricité, c'est compliqué. On parle de kilowattheure, très vite, nos consommateurs ne savent pas de quoi on parle, mais leur dire qu'ils consomment tant et que, par exemple, s'ils débranchent le soir un certain nombre d'appareils, ils pourraient consommer 15% de moins, ça sera utile. Donc je pense que ces technologies vont permettre, au moment où on parle de transition énergétique, de coût de l'énergie, d'aider chaque Français dans son ménage, dans son domicile, de dépenser moins. Et c'est une des ambitions de Total.
Et ça permet aussi de personnaliser, du coup ? Ça permet aussi de personnaliser ?
Ça peut se personnaliser, bien évidemment. Il y aura des applications, vous aurez chacun pour avoir sa consommation en direct.
Vous disiez tout à l'heure, Patrick Pouyanné, je crois que c'est dans l'actualité le sujet de l'énergie. Est-ce qu'on vous parle, là, des gilets jaunes dans les allées du CES ? Est-ce qu'on vous dit qu'est-ce qui se passe en ce moment en France ? Qu'est-ce que sont ces images ? À quoi ressemble votre pays ?
Non, honnêtement, au CES, on ne me l'a pas absolument pas dit. Là, on est dans le monde de l'innovation. Le monde positif qui regarde devant nous, je l'ai beaucoup entendu pour être honnête depuis deux mois dans mes pérégrinations à travers le monde, mais pas ici à Las Vegas. Là les gens, et d'ailleurs je peux vous dire que l'image que donne la France à Las Vegas est impressionnante. Vous arrivez dans le hall des startups, il y a 3000 startups, il y en a 400 françaises. Ça prouve qu'il y a en tout cas un potentiel important et j'ai rencontré pas mal de boîtes d'ailleurs américaines, plus grandes et asiatiques qui m'ont expliqué qu'ils voulaient venir s'installer en France parce qu'ils considèrent que en France, on a des compétences dans le domaine informatique, des télécoms, dans le domaine des mathématiques profondément, qui sont tout à fait à la pointe de la planète. Et ils ont dans la Silicon Valley, il faut falloir savoir qu'aujourd'hui, des boîtes comme Samsung, j'ai rencontré hier le dirigeant de Samsung, m'a expliqué qu'ils avaient du mal à recruter parce qu'il y a une vraie concurrence, et qu'ils sont en train d'implanter à Paris un centre mondial d'intelligence artificielle. Et donc, au contraire, j'en retire le fait qu'il y a des forces à tirer en France. Dans ce monde-là, on a des forces.
Comment vous analysez ce mouvement des Gilets jaunes en tant que grand patron ? Quelle réponse il faut y apporter, Patrick Pouyanné ?
Je crois qu'il traduit quelque chose de plus profond, une espèce de fracture qui se passe dans notre pays entre des personnes qui tirent parti de la mondialisation, Total en fait partie d'ailleurs, et puis des personnes qui sont moins protégées, qui se posent des questions dans un monde où tout s'accélère, où vous avez une espèce de planète qui se divise en deux. Et je pense qu'il y a des personnes qu'il faut écouter, qui nous disent « mais nous, qu'est-ce qu'on gagne dans tout cela ?» Donc, et notamment qui, quelque part, ne tirent peut-être pas parti de la même façon du fait que dans leur vie quotidienne, ils voient plutôt des contraintes que des gains à cette mondialisation. Donc je pense que oui, ça nous interpelle tous. On doit y répondre. Bon, Total fait son travail. Notamment, on doit y répondre en développant des politiques auprès de nos territoires d'où on sommes implantés. Je pense que c'est important que...
même. Vous si allez faire quoi concrètement, par exemple ?
Concrètement, moi j'ai annoncé que nous ne fermerions plus de stations-service dans le pays. Ça c'est concret parce que je sais qu'il y a des gens qui considèrent qu'aujourd'hui c'est pas normal et notre but c'est que 90% des Français soient au moins 10 minutes d'une station de service Total. Il y a aujourd'hui des Français dont on sait qu'il faut 20 minutes pour aller à faire son plein. Bah, c'est sans doute cette recherche parfois d'efficacité peut conduire à oublier cette notion de service et de territoire. Donc voilà, c'est très concret, c'est pratique. Et puis vous savez qu'aussi Total, mais ça c'est salarié de Total en profiter, a voulu être généreux vis-à-vis de ses équipes dans le cadre de l'appel du président de la République à donner du pouvoir d'achat. Donc voilà, bon, maintenant ça c'est plutôt les salariés de Total qui en ont profité. Donc je pense que l'autre action, elle est pour tous les Français.
Le prix du carburant, c'est ce qui a déclenché la crise des gilets jaunes. Vous, patron de Total, vous voyez évoluer le prix du baril de pétrole. Comment ? Dans les mois à venir.
Ça, j'y suis, je le savais, je serais très riche. mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est que depuis la crise, il a beaucoup baissé le prix de pétrole, puisque la crise s'est déclenchée sur cet élément, mais je ne pense pas que c'était qu'un élément parmi d'autres qui renvoyait aux problématiques du pouvoir d'achat. Le prix du pétrole a baissé de 80 à près de 55 dollars, donc le prix à la pompe d'ailleurs a baissé de plus de 15 centimes, mais je peux vous dire que le patron de Total que je suis, tous les matins, reçoit un papier pour suivre si dans nos stations-service, on réplique bien la chute du prix du pétrole. En ce moment, il est stabilisé.
Et vous le faites autour
de... Je le fais et c'est précis, je peux vous dire.
Intégralement, Access, vous pouvez l'assurer.
Ah oui, je vous le garantis, Total Access a eu la plus forte baisse dans les semaines. Tous les matins, je regarde cela. Ça fait partie du fait qu'il y a une règle du jeu dans le groupe. On veut que nos consommateurs puissent... On ne peut pas à la fois dire à la hausse, mais aussi que ça doit aller, ils doivent en bénéficier à la baisse. Et donc, la marge de Total dans ces stations, c'est 1 centime par litre. Soyons concrets, que le prix soit haut, soit le prix soit bas, c'est pas plus, pas moins. Il faut faire vivre notre réseau. Mais voilà, donc je suis de près. Il y a un marché mondial qui est très sensible à de la géopolitique, à de l'offre, à la demande. Donc, il y a beaucoup de. C'est compliqué à expliquer. Encore une fois, on parle d'une mission de raison d'être, la raison d'être de Total. C'est d'apporter à chaque Français l'énergie la moins chère possible, où qu'il soit, et la plus propre possible également.
Enfin, ce CES est devenu quasiment le salon de l'automobile. L'affaire Carlos Ghosn, vous en pensez quoi du fait que Carlos Ghosn soit incarcéré comme ça depuis le 19 novembre
Là, vous allez loin de Las Vegas. Là. Moi, ce que j'ai retenu à Las Vegas, c'est plutôt que... Oui, c'est un salon de l'automobiliste où on voit des voitures autonomes avec des sociétés françaises que j'ai pu, comme Valeo, que j'ai pu, avec qui j'ai passé pas mal de temps. Donc ça me paraît important.
Mais en tant que grand patron, vous avez un avis sur Carlos Ghosn?
Non, j'ai un avis que je respecte, bien évidemment, la présomption d'innocence et que je suis sûr que Carlos Ghosn saura expliquer les choses lorsqu'il aura l'occasion de le faire. Et je fais confiance. Et je savais être s'apprendre simplement que quand on est grand patron, il y a beaucoup d'exigences. Une des exigences essentielles pour moi, c'est la transparence de tout ce que l'on fait. C'est ce que je.
Et vous payez bien vos impôts en France, vous.
Tout sur. Je peux vous dire que chez Total, pour ma compte, tout est transparent. Ce que je gagne, ce que je paye comme impôt également. Je peux vous dire que mon prélèvement à la source est 43,10%. J'ai aucun problème. Il y a une exigence vis-à-vis des patrons. Parce que justement, à la tête de ces grands groupes, on est à la tête, je pense, d'entreprises qui sont des puissances économiques. Et donc, on a une exigence vis-à-vis de nous importante, de plus en plus importante, notion de conflit d'intérêts, etc. Mais en tout cas, sachez que je sais aussi l'exigence que sont ces genres de jobs. Pour moi-même, depuis 4 ans, en être aussi quand même un heureux titulaire. Je ne vais pas me plaindre. Au contraire, je suis heureux d'être le patron de Total. Mais je fais confiance à Carlos Ghosn et il expliquera les choses lorsqu'il aura l'occasion de le faire.
Un grand merci Patrick Pouyanné, le patron de Total, d'avoir été avec nous en ligne ce soir depuis Las Vegas, depuis ce Consumer Electronic Show où donc des patrons comme vous viennent voir comment le monde de demain et à quoi ce monde de demain va ressembler. Un grand merci à François Geffrier qui nous a permis de réaliser cette liaison ce soir. Merci beaucoup et à demain 22h20.
Merci à vous également Emmanuel Duteil. Vous pouvez bien sûr réécouter cette interview sur le site d'Europe 1, europe1.fr. Restez avec nous, on jette un coup d'œil sur les titres que vous retrouverez à la une de vos journaux demain. A tout de suite. Dans vos journaux demain, la grande défiance des Français à la une du Figaro, politique, médias, syndicats. L'enquête annuelle du Centre d'études de la vie politique confirme la crise de confiance inédite de la société française vis-à-vis des différents acteurs de la vie démocratique. La une de Libération résonne aux fonctionnaires, le salaire de la discorde. La polémique concernant Chantal Jouanneau, qui n'organisera finalement pas le grand débat, braque les projecteurs sur ses rémunérations très élevées, parfois accordées par l'État de façon scandaleuse selon Le Quotidien. Un grand débat pour calmer la colère des Gilets jaunes. Mouvement à la une de l'opinion. Certains manifestants se réjouissent du soutien du ministre italien Luigi Di Maio, le chef du mouvement populiste 5 étoiles. Lui espère avoir trouvé des alliés en France. Un peu prématuré, précise le journal. L'Humanité, de son côté, dénonce l'escalade autoritaire du pouvoir face aux Gilets jaunes. Le pouvoir qui souffle sur les braises et leur oppose une répression massive. Dans la presse écho, les échos, justement, s'intéressent à la façon dont l'industrie automobile se transforme et oppose d'un côté Ford et Jaguar, qui vont supprimer des milliers d'emplois en Europe, au CES à Las Vegas, la voiture du futur qui se concrétise. La Croix, de son côté, choisit de titrer sur les résultats de la présidentielle en République démocratique du Congo. Alternance en trompe-l'œil pour le quotidien La Croix. Elle a cette alternance présentée comme le vainqueur officiel de l'élection présidentielle, l'opposant Félix Tshisekedi, a rendu hommage au président sortant Joseph Kabila. Ça ne va pas tout seul pour 20 minutes. Aujourd'hui, un quart des familles sont monoparentales. Leurs conditions de vie, souvent précaires, ont été mises en lumière lors de la mobilisation des Gilets jaunes. Et puis en une du magazine Le Monde, ce visage de profil, une femme, Delphine Horviller, femme rabbin et progressiste. Voilà les titres que vous retrouverez à la une de vos journaux demain. Il est 22h31.